Un mot de sport avec du football.
Well, I love Radio Campus Orléans and I wish all of you a very good
Pas chier, attends, toi aussi. Non,
t'as raison.
Emmerdé.
T'as raison.
La plus belle de toutes les Coupes du Monde.
Salut, c'est Vincent Chong.
Voilà, je suis René Joard et j'écoute Radio Campus et je suis ici Radio Campus.
Bah, non, mais de quoi,
ça veut dire quoi?
Mais toi, tu te mêles de quoi?
Bah, je me mêle de ceux qui me regardent.
Non, tu te mêles de tes oignons, c'est un
arsenic.
Ça n'a rien à voir avec toi, tu t'occupes de tes fesses, t'es gentil.
De quoi?
Toutes mes amitiés à Radio Campus Orléans.
Le ballon le plus lourd est le ballon de basketball.
Tu es champion du monde.
88.3.
Écoute ta fac. Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur. On va la refaire celle-là ?
Bonjour, bienvenue dans Écoute ta fac. Et oui, on est mercredi, il est un peu plus de 12h. Bonjour Noah.
Hello.
Comment ça va ?
Ça va, un peu moche, mais ça va.
Voilà, un peu moche, mais bon, on va s'en remettre. Bonjour Aurélie Le Sieur.
Bonjour.
Alors, vous êtes responsable des publics et des musées d'Orléans. Les musées d'Orléans, c'est le musée des Beaux-Arts, le musée d'archéologie, l'hôtel Cabu et la maison Jeanne d'Arc. Vous allez nous parler des journées du patrimoine aujourd'hui et puis également parler un petit peu de Hop Hop Hop, puisque vous êtes partenaire également du festival. Vous êtes un lieu qui accueille le festival. On va faire une toute petite pause musicale pour nous mettre dans le feu de l'action avec Précox et Prima Sort, de la techno pour se mettre en jambes dès 12h, et on revient juste après pour vous parler justement de tout ce qu'il y a à faire au musée. Campus 88.3 FM, on est avec notre invité Aurélie Le Sieur, on rappelle, responsable des publics des musées d'Orléans. Bonjour, merci d'être là avec nous Aurélie. Donc on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a à faire au musée. Alors il y a un gros temps fort en effet en septembre qui est toujours au rendez-vous, hein, c'est les journées du patrimoine. Mais juste avant, vous faites découvrir le musée autrement aussi avec le festival Hop Hop Hop, festival qui rayonne un peu, qui résonne un peu comme ça dans de nombreux lieux d'Orléans et au musée. Il y a notamment une création qui est proposée au Musée des Beaux-Arts pendant le festival. Il s'agit de Gamut, alors avec un panorama, un playground. Est-ce que Aurélie, vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ça ?
Oui, bien sûr. Donc Gamut, c'est un collectif d'artistes qu'on a eu la chance d'accueillir en résidence au mois de juillet pour finalement qu'ils puissent parfaire leur création musicale et visuelle. Et on les a également accueillis dans le cadre d'un workshop au mois d'août avec la Maison de l'Enfance, où les enfants ont été amenés à découvrir leur univers créatif. Et Gamut, en fait, travaille donc autour d'un projet pluridisciplinaire où l'idée, c'est de mêler à la fois de la musique électronique électronique réalisée grâce à des synthétiseurs modulaires et également des créations visuelles et plastiques, puisque au sein de leur collectif, il y a une plasticienne qui découpe des formes, qui colle, qui crée des maquettes avec des formes extrêmement oniriques. Et leur projet, c'est de proposer finalement des paysages, plusieurs paysages imaginaires qui justement sont amenés à mêler les formes et la musique, puisqu'en fait ils fonctionnent par caméra interposée, où lorsque vous déplacez des lampes torches ou des formes sous la caméra, ça va finalement générer des sons automatiquement, et donc finalement c'est un concert assez incroyable, très plastique, visuel et aussi évidemment sonore. Et ce qui est intéressant, c'est que évidemment on accueille ce spectacle, donc Panorama, au sein de l'auditorium du Musée des Beaux-Arts le samedi en fin de journée à 17h30, mais c'est aussi l'occasion pour eux eh bien, de proposer un dispositif qui sera accessible en continu. Et ce dispositif, eh bien, c'est finalement différentes bornes qui vont être accessibles pour que vous, en tant que public, vous puissiez vous aussi vous mettre dans l'ambiance du projet et tester également à travers des formes qui seront mises à disposition, des lampes, des systèmes de filtres, eh bien, leur système de mélange entre musique et art visuel. Donc vous allez pouvoir créer vous-même votre propre composition musicale électronique et votre petit spectacle grâce à ce dispositif qui sera accessible juste à côté de l'auditorium. Donc voilà, l'idée c'était de proposer quelque chose d'un peu un peu unique, et c'est vrai que ça fait de très nombreuses années qu'on collabore avec l'Astrolabe sur plein de projets, et voilà, un nouveau-né de cette année 2024 qu'on aura plaisir à découvrir dans sa globalité dans le cadre de Pop-Up.
Voilà, c'est le samedi 14 septembre, on rappelle, au Musée des Beaux-Arts Playground, Panorama, Gamut Panorama. Vous le disiez, hein, c'est loin d'être la première fois que vous travaillez ensemble avec le festival Hop Hop Hop. Il s'agit de faire rentrer de la musique dans le Musée des Beaux-Arts. Voilà, ce genre d'action, en effet, ça vous permet en fait d'ouvrir un petit peu un plus large public le musée, et puis de faire découvrir les collections également.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que il y a effectivement cette envie de croiser les publics, de faire en sorte peut-être que les publics qui ont l'habitude de participer au concert de l'Astrolabe puissent à leur tour découvrir les collections du musée, et que les visiteurs qui sont peut-être plus friands de l'ambiance patrimoniale et muséale puissent à leur tour être titillés par la musique. Et c'est vrai que l'idée de pouvoir découvrir les collections et les œuvres d'art sous un autre angle, c'est toujours quelque chose qui nous passionne au sein de l'équipe, et la musique est un très beau détour pour justement peut-être les regarder différemment, trouver des passerelles et des connexions multiples. Donc c'est effectivement des choses que l'on travaille assez régulièrement avec plein de partenaires très différents.
On va écouter le teaser de Gamut Panorama, donc la création qui est proposée au musée samedi 14 septembre. Il y a deux temps, on le disait tout à l'heure, hein, un à 14h et l'autre à 17h30. Tout ça, bien sûr, est gratuit en fait, et libre d'accès. Même si vous n'avez pas de billet pour le festival, vous pouvez aller découvrir ce spectacle, cette création, qui est une création, une structure tourangelle, qui permet comme ça aux artistes de pouvoir développer des projets de création. Gamut, c'est Sophie Soya à l'illustration et à la scénographie, Stéphanie Delpouve à la scénographie, vidéo-lumière, Jérôme Vassereau, musique synthétiseur modulaire, Julien Senlas à la musique et au synthétiseur modulaire. On écoute tout de suite ce teaser, on revient juste après. Il n'y a pas de soin, mon teaser. Il y a très peu de son. C'est très visuel. Alors, je vais passer le teaser un peu rapidement. Je pensais qu'il y avait davantage de son. Voilà, il me semblait. Mais c'est peut-être pas le bon que j'ai choisi. En tout cas, voilà. Donc, une création qui fait interagir l'image, bien sûr, et le son. Vous en découvrirez davantage au musée. En effet, ce samedi, pour le festival Hop Hop Hop. Alors, on va parler aussi des journées du patrimoine. Ça aura lieu un tout petit peu après, en fait, le week-end prochain, le week-end suivant. Les journées du patrimoine, ben, on sait tous en effet que c'est l'ouverture des lieux culturels, de lieux insolites qu'on ne voit pas forcément, ou une programmation spéciale qui est conçue chaque année par vos équipes. Voilà, donc Noah, peut-être as-tu quelques questions à poser à Aurélie sur les journées du patrimoine.
Ah oui, donc cette année, elle marque la 41e édition, si je ne dis pas de bêtises, avec pour thème le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions, ainsi que le patrimoine maritime, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Ce qui est assez intriguant, donc on se demandait c'est quoi les grands axes de ces journées-là du coup, qui vont arriver
Alors c'est vrai qu'on a pour habitude dans les lieux culturels de vraiment essayer de coller au thème qu'on nous donne chaque année. Et donc cette année, en effet, vous l'avez dit, deux thématiques en fait assez différentes. Donc chaque lieu culturel a vraiment pu s'approprier ces thèmes-là pour proposer une programmation un peu distincte. Nous, finalement, on est parti sur les deux thématiques parce qu'on a vraiment trouvé des points de connexion sur chacun des thèmes. Donc, par exemple, sur la thématique des itinéraires, des réseaux et des connexions, on a par exemple prévu de vous proposer évidemment des visites flash. Alors, les visites flash, c'est très intéressant dans le cadre des journées du patrimoine parce que ça permet à tout à chacun de juste découvrir quelques œuvres, 3-4 sur un étage ou dans une salle. Donc, une visite assez courte, en général à peu près une vingtaine de minutes, pour un éclairage thématique. Et en l'occurrence, dans le cadre de cette thématique-là, on a visé des œuvres et des artistes qui nous permettaient de créer une histoire, un parcours sur la thématique des artistes connectés entre eux ou connectés au monde ou connectés à des pays ou à des sphères, à des réseaux particuliers. On a également cette idée d'artistes itinérants, mais qui effectivement dans leur parcours artistique ou créatif ont été amenés à beaucoup voyager, et qu'est-ce que le voyage va leur apporter comme nouveau regard ou comme nouvelle composition. Et puis on va vous proposer également, là pour le coup, sur l'autre volet sur le patrimoine maritime, vous voyez une visite flash qu'on a appelée Tous en mer, pour tous partir voguer dans les paysages, les marines, c'est les paysages qui nous montrent justement beaucoup de bateaux ou de guerres qui se faisaient grâce à des voiliers. Donc effectivement des éclairages qui nous permettent comme ça, et bien sur toute la journée, parce qu'on a développé des créneaux à toute heure de la journée, de pouvoir avoir une petite facette des collections du musée, à la fois au musée des Beaux-Arts, mais également au musée d'histoire et d'archéologie, puisque cette thématique, par exemple, du patrimoine maritime, on l'a un petit peu dévié sur la question du patrimoine fluvial, parce que, évidemment, maritime, c'est plutôt lié à l'océan, à la mer. Il se trouve qu'à l'hôtel Cabu, au musée d'histoire et d'archéologie, on a une grande collection dédiée justement au commerce qui s'est développé sur la Loire, principalement au XVIIIe siècle, parce que ça a été vraiment l'essor du commerce fluvial grâce à la Loire. Et donc, par exemple, on a aussi des visites flash sur ce thème-là, à la fois sur le saint patron des mariniers qui est Saint-Nicolas, et puis une visite qu'on a appelée du chaland vers l'océan, donc vraiment cette histoire du commerce qui a été développée au 18e et dont Orléans a vraiment été une plateforme très importante, ce qui a permis justement la richesse orléanaise de ce siècle-là, qui est presque un siècle d'or pour la ville. Donc on a effectivement essayé de jouer sur ces thématiques par les visites flash, mais aussi par d'autres actions, comme des ateliers Odyssée Marine, voilà, qui vous plongent dans un univers entre les monstres, les sirènes, qu'on est venu picorer dans les œuvres. Donc on est venu chercher les petites bestioles, les monstres marins qu'on pouvait découvrir dans les tableaux, et comment composer des créations à partir de ça. Donc on a une collègue médiatrice plasticienne qui vous accueille, petits et grands. On insiste aussi sur les grands, hein, parce qu'on n'attend pas non plus que des enfants dans ces ateliers. Nous, on a aussi envie que les jeunes et les moins jeunes puissent venir se divertir et finalement laisser part à leur part d'imaginaire et de création pour ces ateliers. Donc voilà, il faut imaginer des photomontages, il faut imaginer des crayons aquarellables, et comment venir créer des petites œuvres à partir des œuvres des collections et sur cette thématique de la marine.
Et donc plein de temps forts qui vont arriver ce week-end-là. J'ai vu notamment dans la prog la conférence sur la musique celtique et les performances de danse.
Oui.
Est-ce qu'il y aura une interaction avec les artistes à ce niveau-là avec les danses, la musique.
Carrément, c'est vrai que du coup, en dehors de cette thématique très ciblée, qui, je vous le cache pas, arrive toujours un peu tard, c'est-à-dire qu'on commence déjà à programmer bien en amont les journées du patrimoine, et puis après le ministère nous envoie les thématiques et on se dit oh là là, vite, il faut qu'on programme d'autres choses du coup. Mais donc en effet, on avait déjà calé bien en amont ces temps forts avec ces artistes et ces créateurs un peu, un peu spécifiques qui font part, qu'on a finalement sollicité autour des collections du musée. Donc en effet, on a finalement fait une commande à une chorégraphe qui s'appelle Anne Perbal, qui travaille beaucoup dans la région, qui en fait a eu un énorme coup de cœur pour une œuvre que l'on a accueillie déjà l'an dernier du Centre Pompidou, parce que le Centre Pompidou à Paris va fermer ses portes bientôt. Et en fait, il y a beaucoup d'œuvres qui ont voyagé déjà depuis l'an dernier des collections du Centre Pompidou dans les musées de la région Centre. C'est ce qu'on appelle le Festival Archipel. Et donc, à cette occasion, on avait l'an dernier accueilli une œuvre de Jésus Raphaël Soto, qui est un artiste qui est né au Venezuela. Et donc, on a cette œuvre qui s'appelle Volume Suspendu, qui a été fait en 1968. Et donc, il faut imaginer une œuvre avec des tiges d'acier bleu et noir, avec un effet d'optique, en fait, assez, et cinétique assez incroyable. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez autour de l'œuvre, vous avez vos yeux qui vacillent, en fait, votre regard qui un peu se trouble.
Les couleurs changent.
Les couleurs changent. Il y a vraiment une ambiance assez, assez incroyable. Et donc, cette œuvre, en fait, on a eu la chance de la garder en dépôt, encore un petit peu. Donc, elle est encore à Orléans pendant quelques temps. Et c'est vrai que la chorégraphe a eu ce coup de cœur et a eu envie de nous proposer une création chorégraphique particulière autour d'elle. Et donc, c'est ce qu'on vous propose sur deux sets de performances le samedi, qui sera bien entendu introduit par un petit mot expliquant l'œuvre. Vous expliquez pourquoi on va créer cette interaction entre danse et œuvre plastique. Et donc voilà, il y a cette performance, et bien entendu que la danseuse et chorégraphe sera à votre écoute à l'issue de chacune de ces performances pour échanger avec vous et vous raconter un peu son projet de création. Donc ça, c'est le samedi de 16 à 17h, enfin de 16 à 16h pardon, et à 17h. Il faut imaginer que les petites performances, elles durent à peu près une vingtaine de minutes en tout avec la présentation de l'œuvre. Et puis, on a effectivement souhaité faire venir donc Julien Cuvillier et John Kenny. John Kenny qui vient tout droit d'Écosse, exceptionnellement pour cette conférence musicale sur la musique de l'Antiquité celtique. Ce sont deux personnes qui, en fait, ont développé une sorte de laboratoire de recherche autour de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils sont évidemment très intéressés par l'archéologie et ont des formations sur l'archéologie, mais ils sont également musiciens. Et au sein de leur laboratoire, ils vont tenter de reproduire, de reconstituer des instruments de l'Antiquité celtique. Donc, en l'occurrence, par exemple, des instruments gaulois. Et John Kenny, par exemple, qui est un grand compositeur qui travaille beaucoup dans les grandes académies de musique d'Écosse, c'est le spécialiste de la reconstitution des carnyx. Ce sont ces sortes de grands instruments en cuivre, des trombones, souvent avec des têtes d'animaux en extrémité, qui étaient utilisés par les Gaulois. Et notamment, en fait, on sait que pas très loin, enfin dans l'Orléanais, il y avait la présence de ces carnyx, la présence d'instruments de musique antique. Et en effet, s'ils interviennent au sein d'Orléans et dans le cadre d'une collaboration avec les musées d'Orléans, c'est parce qu'au musée d'histoire et d'archéologie, l'hôtel Cabu, nous conservons un trésor qui s'appelle le trésor de Neuvy-en-Sillas. Donc c'est un trésor qui a été redécouvert en 1861. Et ce trésor comprend plein de statuettes de bronze. C'est assez exceptionnel, hein. C'est vraiment un ensemble qui est reconnu de manière assez importante à l'international. Et dans ce trésor retrouvé, il y avait une trompe, donc un instrument de musique qui était probablement aussi un instrument qui servait à annoncer en temps de guerre. Voilà. Mais donc effectivement, l'idée, c'est que ce collectif, on l'invite à compléter les recherches que l'on a déjà grâce à leur laboratoire expérimental pour venir travailler sur cette trompe et sur d'autres objets de ce trésor pour essayer de faire avancer la recherche sur nos collections. Et donc dans le cadre de cette conférence, ils vont parler de la musique de l'Antiquité celtique et de tous ces instruments qui viennent pour partie aussi d'Écosse, qui vont venir avec un convoi dans l'aéroport. On va les chercher avec une grosse camionnette pour vous faire vous replonger des siècles en arrière sur la musique qui était produite à l'époque de l'Antiquité celtique.
Plein de belles choses du coup. Tu nous as parlé un peu de l'Odyssée marine, plutôt adaptée pour les enfants, les conférences, etc. Donc on peut dire que c'est une proie qui est vraiment axée plus régénérationnelle. Pour petits et grands, du coup.
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vraiment, on a envie de toucher tous les publics. Les Journées du patrimoine, c'est toujours un week-end gratuit où les familles, les grands, les enfants, les jeunes se déplacent de lieu en lieu. Et donc, c'est vrai que cette idée de toucher tous les publics, on la recherche tout le temps. Et effectivement, dans le cadre de la programmation, c'est ce qu'on vise à travers ces différentes approches. On sait que ces publics, dans le cadre des Journées du patrimoine, ils aiment bien justement un peu voler entre les différents lieux. Ils font leur petit programme à l'avance. Alors, de telle heure à telle heure, on va faire ça, ça. Et souvent, c'est des week-ends vraiment ouverts où justement, on peut planifier son programme sans réserver en amont. C'est-à-dire qu'on laisse aussi quand même la place à des visiteurs qui se promènent et qui disent « Ah bah tiens, c'est les Journées du patrimoine, et bah si on entrait et on allait faire un tour. » C'est aussi l'idée. Et c'est vrai que pour ceux qui ont envie vraiment de venir se déplacer d'un endroit à l'autre, on a aussi par exemple une proposition qui est plus large, qui a été conçue par exemple avec Ville d'Art et d'Histoire, un autre partenaire, où ils vont finalement proposer des petits temps de visite sur les architectures remarquables d'Orléans. Et en fait, ils invitent justement les habitants, les visiteurs, à aller retrouver des personnes dans chaque lieu. Donc par exemple au FRAC Centre-Val de Loire, au Musée des Beaux-Arts, à la médiathèque, pour finalement en découvrir un peu plus sur ces architectures du patrimoine du XXe siècle. Et donc le Musée des Beaux-Arts en fait partie. Et donc c'est vrai que c'est une autre forme. Donc là pour le coup c'est pas dans le musée, c'est à l'extérieur du musée où on va vous parler de l'architecture. Donc pour ceux qui sont un peu intéressés aussi par ce volet-là, c'est aussi quelque chose qu'on déploie. Donc c'est vrai que quelque chose d'assez large pour ces Journées du patrimoine, pour finalement donner envie à tout le monde de s'emparer de ce rendez-vous national, même européen.
Et ça, c'est samedi et dimanche à 13h chez vous, aux Beaux-Arts, en effet.
Oui.
Et après, renseignez-vous, en effet, si vous voulez la même visite du FRAC, par exemple. Ce sera à une autre heure, mais ce ne sera pas au Musée des Beaux-Arts.
Exactement, il ne faudra pas se tromper de lieu.
Et voilà, on a fait à peu près le tour de tout ce qui est proposé, en effet, pour les Journées du patrimoine. On le rappelle, hein, c'est les 21 et 22 septembre. Tu voulais ajouter quelque chose, Noa, peut-être ?
Non,
rien. rappelez-vous également, en fait, que les musées d'Orléans, c'est également la maison de Jeanne d'Arc. Il y aura également des visites commentées autour d'une collection d'objets et de documents issus du centre Jeanne d'Arc. Et puis, une rencontre autour des coulisses du centre Jeanne d'Arc avec des documents inédits, en effet, que vous pourrez découvrir. Ça sera le samedi à 14h30.
Oui, tout à fait.
Alors on va découvrir l'univers de la musique de l'Antiquité celtique avec un extrait d'un album de John Kerry. Alors on va écouter Layadin and Curidir. Alors mon celtique est très mauvais. cette rencontre, elle a l'air exceptionnelle. Et ne la loupez pas, c'est le samedi à 15h, en effet, au Musée des Beaux-Arts. Rencontre avec Julien Couvilliès, et John Kenny, qui est compositeur, enseignant au Conservatoire National d'Écosse, avec de magnifiques instruments, en fait, pour l'occasion, on le rappelle. Merci beaucoup, Aurélie Le Sieur. Hein, on le rappelle, vous êtes chargée des publics du Musée d'Orléans et on écoute de la musique celtique au Musée d'Orléans. Merci beaucoup.
À bientôt.
Mais c'est mon ordinateur qui ne veut pas sortir de son, en fait.
Ah, puis je ne vais pas vous faire l'instrument celtique.
Ah,
je ne vais pas pouvoir avec ma voix.
C'est bien dommage. Bon, alors on va essayer de vous mettre de la musique celtique et puis on revient dans quelques instants dans la fac. Merci beaucoup, Aurélie.
Merci.
Écoute ta fac.
Tous les jours de midi à 13h sur Radio Campus. Écoute ta fac, c'est des reportages, des chroniques, de la musique, mais surtout de la bonne humeur.
On va la refaire celle-là ?
Promise, la musique celtique, on écoutait Nilufer Yanya, la musique celtique de John Kenny, c'est tout de suite sur campus et c'est maintenant, et c'est au Musée des Beaux-Arts samedi 23 septembre.
Mm-hmm.
Brahma à l'instant sur campus avec Romex. C'est un groupe que vous découvrirez au Festival au Pop-Up. J'allais dire à l'Astrolabe, mais non. Au Festival au Pop-Up à 18h30 vendredi. Ça joue à la scène nationale. C'est un groupe de rock psychédélique qui a une vielle à roue avec des effets et tout ça, donc avec un chant en occitan assez hypnotique. N'hésitez pas à aller les découvrir leur premier album qui sortira le 13 septembre prochain sur le label Airphono. On écoute maintenant Pull the Rope, c'est un extrait de l'album d'Ibibio Sound Machine. Eux, vous les retrouverez sur la scène de Pop-Up. Ce sera plutôt le samedi et ce sera à 21h50 au Campo Santo, un groupe de Londres avec cette machine à funker sensuelle et joyeuse avec un live assez surpuissant que vous découvrirez. L'album s'appelle Pull the Rope, est sorti l'année dernière sur Merge Records. On écoute tout de suite cet extrait.
Let's pull the rope. Even though we dig out to pull. Let's go to the road. Even though we need.
à l'instant dans Écoute Avax, c'était Roy avec le titre Curaffs. On est toujours dans Écoute Avax. Il est temps de passer au jeu des morts et des nés du jour. Alors aujourd'hui, on est le 11 septembre. C'est un triste anniversaire que celui des attentats, bien sûr, de 2001 à New York. Voilà, donc aujourd'hui et également maintenant, en fait, la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Alors, on va avec vous et merci Aurélie d'être encore là. Aurélie, on le rappelle, elle travaille au Musée des Beaux-Arts d'Orléans, pour les musées en fait d'Orléans. Et elle est restée avec nous pour ce jeu magnifique en fait, eh bien que nous vous proposons tout de suite. Alors, on cherche bien sûr à découvrir des personnes célèbres qui sont nées, qui sont mortes un 11 septembre. Voilà, il s'agit de trouver assez vite, en effet, la personnalité. Alors, des fois, c'est un peu dur. Hein. Des fois, c'est un peu compliqué, surtout que sur 11 septembre, on a des figures de l'art, en effet, qui sont un petit peu complexes à trouver. Alors, allons-y, c'est un peu le gros challenge aujourd'hui. Alors, on cherche un poète français né en septembre 1524, près du village de Couture-sur-Loire, dans le Vendômois, pas très loin de chez nous. Donc, ce poète français est le prince des poètes et le poète des princes, figure majeure de la littérature poétique de la Renaissance. Auteur d'une œuvre vaste qui, en plus de 30 ans, s'est portée aussi bien sur la poésie engagée officielle dans le contexte des guerres de religion avec les hymnes et les discours, et que sur l'épopée avec la Franciade ou la poésie lyrique avec des recueils comme les Odes et des Amours, les Amours de Cassandre, Continuation des Amours, Sonnet pour Hélène. Vendôme lui consacre de nombreuses rues, de nombreux parcs.
Sonner pour Hélène, ça me dit quelque chose.
Ah, sonner pour Hélène, ça te dit quelque chose.
Oui.
Alexia,
mais
ça va ?
Je ne trouve pas de
Tu ne trouves pas ?
Non.
Alors, on va vous
Ronsard.
Dire. C'est Ronsard.
Ah.
Voilà, bravo.
Mm-hmm.
Alors, Ronsard, un point pour Alexia, bravo. On cherche un réalisateur, producteur de cinéma, scénariste américain, né le 11 septembre 1940 à Newark, dans le New Jersey. Il a étudié à l'université Columbia comme de nombreux cinéastes. Il a été tour à tour, bien sûr, réalisateur, producteur, scénariste, alors avec des films notables comme Phantom of the Paradise, Carrie au bal du diable, Scarface, Les
Incorruptibles.
Brian De Palma, bravo à nouveau. Je pense que Alexia en fait va mener encore une fois ce jeu.
Il m'avait tellement manqué cet été en plus.
Alors, on est moins dans la culture pop, le cinéma et l'art, puisque là nous recherchons un homme d'État né le 11 septembre 1965 à Damas, en Syrie. C'est un homme d'État syrien, président Bachar el-Assad, le président de la République arabe syrienne. On enchaîne avec un
musicien. Parlons pas trop de lui non plus.
Parler de
non,
lui, en effet. Hein, déjà, en fait, voilà, il a l'honneur de figurer dans notre jeu, ce qui n'est pas forcément voilà, la plus grande des réjouissances. Hein. Donc, on cherche là un auteur, compositeur, interprète, chanteur, musicien, producteur, réalisateur artistique, photographe américain, un artiste très complet. En effet, il pourrait très bien répondre à notre question, t'étais où il y a 30 ans, puisqu'en fait notre anniversaire cette année et il y a 30 ans en fait ce chanteur, musicien, producteur nous livrait déjà des morceaux. Que vous dire d'autre? Où est-ce qu'il est né? À New York. Il est multi-instrumentiste, il chante, il joue de la guitare. Figure de la dance music des années 90, il a vendu plus de 20 millions d'albums à travers le monde. Il est engagé, il est aussi connu pour son véganisme, sa défense des droits des animaux, ses opinions démocrates. On lui doit plusieurs albums, on va peut-être vous dire lesquels, mais c'est un peu facile si on vous dit tout de suite celui qui est sorti en 1999. On va commencer par un de ses premiers succès qui s'appelle Go, ensuite Everything is Wrong, Ça, c'est vraiment ce qui l'a fait connaître dans le milieu des musiques électroniques, grand public, on va dire. Et puis, son succès international, il commence avec un album qui s'appelle Play, en 1999. Plutôt tourné davantage vers l'electronica, le downtempo. Voilà, ensuite... un succès énorme en fait, Why Does My Heart Feel So Bad, Natural Blues, ça vous dit rien tout ça?
Non,
ça ne vous dit vraiment rien. Il a collaboré, produit, remixé de nombreux artistes tels que David Lynch, New Order, A$AP Rocky, les B-52s. Je vais vous mettre un petit extrait, peut-être que vous allez reconnaître au moins en fait
le morceau. Quel âge il a ? Il est...
Quel âge il a ? Tiens, c'est une bonne question. Il est né en quoi ? Hop, je reviens. Il est né en 1965. Donc il a 58 ans.
Un Américain, musique électronique, ça ne me parle pas du tout. Et vous ?
On va écouter un de ses tubes qui s'appelle Porcelain. Après la pub de YouTube. Excusez-moi, je vous épargne ça.
Oui, merci.
Non, ça vous dit rien. Allez, c'est fini la pub. C'est fini la pub. Ça, c'est toujours la musique écossaise qui n'a pas terminé. Ça vous dit rien. Ouais, il y a plusieurs choses là. Bon, alors, c'est Moby. Voilà,
Moby. Ah, c'est Moby.
Et oui.
Ah ouais, ok.
J'aurais dû essayer de vous le faire deviner avec un rébus ou quelque chose comme ça.
Mais ouais, je sais pas, il doit y avoir des noms de morceaux peut-être qui m'auraient parlé, je sais pas.
La Natural Blues, c'est quand même un de ses succès. Alors, on cherche toujours...
C'était facile, hein, pourtant.
Dans la pop musique, eh bien, un artiste qui est né le 11 septembre 1971 à Wigan, en Angleterre, dans la banlieue de Manchester. Il est notamment connu pour avoir été leader d'un groupe emblématique.
Liam Gallagher ?
Non, alors on n'est pas loin vraiment, on est dans le même esprit.
Damon Albarn.
Alors, bah oui, si je te dis le groupe, tu vas tout de suite deviner en fait.
Jarvis Cocker.
Voilà, bah tu peux continuer.
Je peux continuer.
Donc, il forme ce groupe assez emblématique en 1989. Il a sorti 4 albums avec ce groupe, dont le très connu Urban Hymns. Avec un tube planétaire en fait, vraiment qui a tout raflé sur son passage, un tube que vous connaissez tous, qui s'appelle Bittersweet Symphony.
Ah, c'est The Verb.
C'est The Verb.
Verve.
The Verve, pardon, le nom du groupe, et on cherche le chanteur de.
Je sais pas
The
comment
Verve.
Il s'appelle.
Il s'appelle Richard Ashcroft.
Ah. Je connaissais pas son nom.
Voilà, un plutôt beau gosse, hein.
Ah ouais ?
Ouais, moi j'aime bien.
Ok.
Voilà, alors on cherche un autre beau gosse. Il est né le 10 novembre 1668 à Paris. Il est mort le 11 septembre 1733. On est passé en fait...
C'est un beau gosse
voilà, du côté obscur de la force, puisque maintenant on cherche des personnes qui sont décédées en fait le 11 septembre. Donc lui, il est décédé le 11 septembre 1733, toujours à Paris. Un important compositeur, organiste, claveciniste français de la période baroque.
Lully ?
Alors, c'est pas Lully, c'est l'autre.
C'est l'autre.
Voilà. Qu'est-ce qu'on lui doit comme œuvre, en
il
fait ?
Il est français ?
Il est français, bien sûr, il est né à Paris.
Ah oui.
En tout, c'est 126 œuvres, donc vraiment... beaucoup de pièces de musique baroque, de musique de chambre, des œuvres religieuses également. Son prénom, c'est François. Et son nom, c'est Couperin, François Couperin.
Oh. C'est un beau gosse, tu disais ?
Oui, non, mais je disais ça pour faire une transition, quoi. Voilà, j'aime bien les transitions.
C'est, bah après, il faut regarder quelques tableaux, peut-être, hein ? François Couperin.
Voilà, François Couperin est un musicien. Compositeur. Ensuite, on cherche. Là, on est retourné dans la politique. On cherche un homme politique russe qui est mort le 11 septembre 1971 à Moscou. Un homme d'État soviétique qui dirigeait l'URSS
Staline.
Durant une partie de la guerre froide. Alors, c'est pas Staline.
C'est après.
C'est après Staline, en effet. Il est premier secrétaire du Parti communiste de l'Union soviétique de 1953 à 1964, président du Conseil des ministres à cette époque-là, entre 58 et 64. Et il joue justement un rôle important dans le processus de déstalinisation de l'URSS, dans le développement du programme spatial soviétique également, et dans la mise en place de réformes relativement libérales en politique intérieure. Voilà, donc c'est, si je vous dis son prénom, vous allez le trouver tout de suite, c'est Nikita.
Ouais.
C'est Nikita Khrouchtchev.
Oui.
Voilà.
Oui.
Il va falloir réviser un petit peu le programme d'histoire de terminale.
Ça remonte quand même.
Ça remonte un peu le lycée. Ça remonte pas pour tout le monde. Là,
pas pour tout le monde.
On cherche toujours un homme politique, lui chilien, homme d'État chilien, qui est mort à Santiago le 11 septembre 1973, président de la République du Chili du 3 novembre 1970 à sa mort. Plutôt un homme politique de gauche, voilà, il accède au pouvoir en fait... donc en 1970, il entreprend de nombreuses réformes, mais malheureusement, en fait, il ne reste pas au pouvoir parce que dans son pays, il y a un coup d'État qui est mené par Augusto Pinochet, qui renverse par la force ce gouvernement de notre personnage dont on doit trouver le nom. Il renverse le gouvernement, il instaure une dictature militaire Pinochet à cette époque-là. Alors qui justement est ce personnage qui se suicide en fait dans le palais de la Moneda sous les bombes des putschistes en effet de Pinochet. C'est Salvador Allende.
Ok.
Il va falloir réviser les leçons d'histoire hein, quand même hein.
Histoire
internationale.
Est-ce qu'on a des historiennes autour de la table ? Non.
Nous n'avons pas d'historiens autour de la table.
Par contre, je vois qu'il y en a qui recherchent de manière assez intensive à quoi ressemblait François Couperin.
Alors,
savoir s'il était beau gosse ou non.
C'est ça. Du coup, j'avoue que je me suis perdue un peu et je dirais.
Regardez Richard Ashcroft ou pas ?
Non, mais je vais regarder après parce que. Mais alors, moi, je dirais pas trop beau gosse. François.
C'est pas les standards de notre époque, c'est tout.
Voilà, et donc Richard Ashcroft, tu dis Richard Ashcroft. Il a un long menton hein, quand même.
Oui, oui, oui. Bon, c'est un brin ténébreux anglais de cette époque-là, voilà.
Ouais, non, pas.
Ça me faisait
pas
peut-être rêver, non. Moi, dans les années 90.
Alors, hein. Trop. Visage trop long pour moi. Voilà, mais je sais.
It's a bittersweet. Symphony. Non, ça vous dit rien, ça ? Non.
Bah si, quand
mais
même.
Si, bien sûr que si.
C'est un gros tube.
Bah oui. Alors là, on cherche un autre musicien qui a produit des gros tubes aussi. On cherche un chanteur, guitariste, organiste, auteur, compositeur de ska, rocksteady, reggae, de soul, né le 19 octobre 1944 à Grange Hill, en Jamaïque. Il est mort le 11 septembre 1987 à Kingston. Il est une des figures emblématiques du reggae, de la spiritualité rasta, mais il n'est pas Bob Marley.
Il n'est pas Bob Marley.
Non.
Il est mort en 87.
Il est mort en 87, exactement. Voilà, il a été... il a joué avec de nombreux groupes de reggae. Une période reggae, une période rocksteady, une période très où il a beaucoup de succès en effet à partir de 1976.
Je pense que quand tu vas le dire, je vais le connaître.
Sans doute.
Ou
alors son comment dire. On va parler un petit peu de sa discographie. Mm-hmm. Il a joué bien sûr avec les Wailers, le groupe de Bob Marley. Mais il a fait également des albums solo, en fait, dont un album solo assez emblématique du reggae qui s'appelle Legalize It et qui est sorti en 1976, ou Mystic Man en 1979, Bush Doctor en 1978, un artiste plutôt prolifique en effet, non seulement pour sa carrière solo, mais avec les Wailers, des albums comme Soul Rebels, Catch a Fire ou Burning, en effet, de Bob Marley and the Wailers. C'est Peter Tosh.
Non.
Ça ne vous dit rien.
Non.
Eh ben dis donc, j'ai pas de chance, hein. Alors on va chercher une actrice américaine et puis après ce sera bientôt la fin de notre émission et la fin du jeu. C'est une actrice américaine qui est née le 11 septembre 1961 à Chicago. C'est la sœur d'un acteur très connu qui a tourné de nombreux films, notamment avec Quentin Tarantino. C'est sa sœur de cet acteur-là. Ça vous dit quelque chose peut-être sur son nom ? On l'a connue et on la découvre au grand écran avec Classe de Lewis John Carlino dans un rôle d'une jeune femme. Elle apparaît également en tant que violoncelliste dans la comédie fantastique La Belle et l'Ordinateur de Steve Barrett. Ça a l'air génial.
Ça fait un peu Code Lisa, quoi. Ça a l'air trop bien.
Et elle, la même année, elle devient la princesse Irulan dans le film de science-fiction Dune de David Lynch. Elle joue également Lou Allen, Ellie Purdy dans un épisode de la série télévisée American Playhouse. Et puis elle joue également dans d'autres films, Hotspot, Highlander le retour, Candyman, Sideways, et des séries notables, et notamment la très très bonne série Designated Survivor.
Ouais.
Moi j'ai bien aimé cette série. voilà. Série un petit peu sur ce qui se passerait aux États-Unis s'il n'y avait plus qu'un survivant dans la Maison Blanche.
Je pense que les deux premiers épisodes sont bien, après c'est n'importe quoi.
Moi j'aime bien c'est n'importe quoi. Donc oui...
j'arrive pas. Tu m'as perdu dès le début en disant sœur de d'un acteur qui joue souvent dans des Tarantino, mais Tarantino il utilise tout le temps les mêmes acteurs.
Il y a tout le temps les mêmes acteurs, c'est pour ça que je vous dis ça.
Mais
alors cet acteur en fait qui joue tout souvent avec Tarantino, il joue également dans Thelma et Louise.
C'est Brad Pitt ?
Non, c'est pas non, Brad Pitt. Dans Reservoir Dogs, dans bien sûr, dans Donnie Brasco, dans Sauver Willy. C'est un acteur comment dire
C'est Harvey Keitel ?
Non, c'est pas Harvey Keitel, mais c'est le même genre d'acteur, c'est... plus jeune qu'Harvey Keitel.
Tim Ross ?
Non.
Mais il est britannique.
Bah, il est assez emblématique de Reservoir Dogs, en fait.
Mais...
Donc, tous. C'est la sœur de Michael Madsen.
Ah, comment elle s'appelle ?
Qui s'appelle Virginia Madsen.
Ah oui, oui, oui. Voilà.
Voilà, c'était peut-être la plus dure à trouver. il est 12h57, on va se laisser, en fait. Merci beaucoup d'avoir participé au jeu. Encore une fois, c'est un jeu très très difficile qui eh bien, est voué à vous faire perdre, désolé, et à ce qu'on apprenne un petit peu des petites choses. Eh bien, on se laisse avec Anthony Joseph qui sort un titre qui s'appelle Black History. On vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Aurélie d'être restée avec nous pour le jeu. On le rappelle, les journées du patrimoine, c'est les 23 et 24 septembre. Alors, pardon, vous pouvez... Vous pouvez parler.
Les 21 et 22 21 septembre.
Et 22 septembre.
C'était presque.
Au musée. C'était presque ça. Voilà. J'ai perdu mes notes. Black History, tout de suite. Merci.
One turntable was all DJ Champ had. The fade was the weight. Two big speaker box for the boom. Two tweeters hung like bees on wire above the front door. Sacred hearted Jesus. Mr. Clarence dancing to Lord Nelson's Night Train. The only glimpse we ever stole of him in this motion. With his head up and easy. Holding out his glass of white waves of Wimple to the side so he don't spill when he slide and spin on his heel. And there were women in the kitchen smoking filterless Broadways and drinking scotch straight. Pantiatilla was young then, among them.
strong and long before her stroke.